Amen. Alors, on va envoyer l'image de la thématique du message de ce matin. Quand Dieu nous demande d'avancer par vent contraire. Ça vous est jamais arrivé d'avoir des vents contraires? De dire je rame, c'est pas facile. Voici un texte que l'on va lire qui me parle. Il y a 25 ans de cela, j'habite la Bretagne, pas loin de la mer, on avait acheté un petit bateau. C'était un truc gonflable, qui n'était pas très grand, avec un petit moteur. Et puis, quand même, aux affaires maritimes, ils m'ont dit, il faut l'immatriculer. Bon, j'ai immatriculé, il faut lui donner un nom. C'est un truc tout petit. Je ne vais pas l'appeler le Charles de Gaulle, ni le Redoutable, ni le Costa Concordia. Je vais prendre quelque chose de simple. Et j'ai pensé, je vais l'appeler le Ployarion. Alors, je suppose qu'aux affaires maritimes, ils ont dû me prendre pour un armateur grec qui était... ou bien pour un amateur qui se prenait pour Onassis. Ployarion, c'est mot grec. C'est dans l'Évangile. C'est le mot qui, en grec, désigne la barque dans laquelle montait Jésus. Et je remercie le Seigneur parce que quand Jésus est dans la barque, il peut y avoir une mer agitée. Il peut y avoir des vents contraires. On peut ramer. Et c'est vrai qu'avec le bateau, on s'est fait un petit peu peur. On a eu des brisants, on a eu une mer formée. Mais il y avait le Ployarion et le Seigneur dans la barque. Alors, c'est un texte qui me parle. Alors, j'espère qu'il va nous parler tous ce matin. Parce que dans la parole de Dieu, eh bien, il y a un enseignement pour chacun. Nous lisons dans Marc, chapitre 6, versets 45 à 52. 45 à 52 dans la version second. Alors j'ai pris une Bible qui n'était pas second, j'ai pris une Bible dans les objets trouvés. Si quelqu'un en reconnaît sa Bible, il la reprendra tout de suite. Marc 6, verset 45. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avec lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la quatrième veille, c'est-à-dire vers 4 heures du matin, de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. Ils poussèrent des grands cris, car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits, remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens, ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs et l'on se mit à apporter les malades sur des lits. Partout où l'on apprenait qu'il était, en quelque lieu qu'il arrivât, dans les villages, dans les villes, dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on les priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Ramés entre deux miracles. Finalement, c'est ce que Jésus fait vivre à ses disciples. Et il faut bien comprendre le contexte. Alors, on va faire un petit peu d'histoire-géographie, juste pour présenter en deux minutes le contexte. C'est le. Ben, on reprend l'image. C'est le lac de Génézareth. Au fond, il y a le plateau du Golan. Et puis, c'est un lac qui se trouve en fait 200 mètres en dessous du niveau de la mer, entouré de montagnes et de plateaux. Ça fait 10 km du nord au sud, c'est pas très grand. Mais vous savez, sur ces petites mers intérieures, quelquefois, des tempêtes. Surtout quand c'est des trous à courant d'air. C'est un couloir de vent. On va passer à la deuxième image. Ah, ça, c'est une charte des vents. Chart, en anglais. C'est-à-dire, vous avez... Ça, c'est, j'ai pris, c'est au mois de juin. Vous avez la direction des vents. Alors, c'est simple. C'est un couloir de vent, vous avez compris, nord-ouest essentiellement, puis aussi sud-sud-est, en travers. On a soit des vents qui viennent du nord, soit des vents qui viennent du sud. C'est au choix. Mais quand il y en a, vous apercevez que ça souffle fort. Et les disciples, qui sont pour la plupart des marins, André, Pierre, Jacques, Jean, les fils de Zébédée, ils connaissent très bien, c'est leur coin de pêche. Ils savent à tel point c'est un lac dangereux. Il y a du clapaucourt qui déferle souvent. D'ailleurs, la première image, il n'y avait pas de vent, il y avait déjà de la mousse. Et puis, il y a même sur cette petite même intérieur des vagues qui font 3 mètres de haut. Alors, quand on est assis sur l'eau, évidemment, il y a des morts, il y a des noyés, il y a des naufrages. Alors, autour du lac, c'est des grèves. Bon, il n'y a pas trop de rochers. On peut glisser, mettre le bateau à l'eau et le remonter, mais il n'y a pas de port à l'époque. On le pousse, c'est lourd, mais on est plusieurs. Et comme ça, on le met un petit peu à l'abri. On va continuer à voir quelques images aussi. C'est l'image qui nous représente, et on va rester là-dessus, le programme de Jésus. Ils sont partis de Capernaum. Et Jésus, si on lit les textes avant, il a donné rendez-vous avec la foule dans un endroit désert, qui se trouve de l'autre côté Capernaum, et d'après tous les textes, parce que ce texte est cité par Matthieu, par Marc, repris dans Jean, ce qui est très rare d'ailleurs sur les miracles de Jésus ensemble, par les synoptiques et l'évangile de Jean, on pense que c'est à peu près ce coin-là. Donc ils ont fait une première traversée. Alors la barque a une voile, formidable, beau temps. Ils devaient chanter, hein. Le Seigneur est si bon, tout dit qu'il est merveilleux, il n'y a plus qu'à cesser de pousser. Ils arrivent au bord et Jésus a prévu pour eux un endroit formidable. Il y a même de l'herbe, nous dit la Bible. Et puis là, c'est le miracle de la multiplication des pains. 5000 personnes de nourries. Formidable. Ils ont vécu un moment extraordinaire avec Jésus, avec Dieu. Et puis, tout va se gâter. Parce que vous avez lu comme moi le texte. Il oblige les disciples à remonter dans la barque et puis à retourner. Alors il dit vers Bethsaïda. Bethsaïda, ce n'est pas tout à fait Capernaum, c'est tout à fait la pointe nord du lac de Génézareth. C'est-à-dire que ça leur pose problème. Jésus, il parle à des marins, il parle à des professionnels. Ils ont vu qu'il y avait une bonne brise là qui poussait. Donc, devise du marin, quand on est en face, même avec des bons bateaux, 2 fois la route, 3 fois le temps. Et là, quand il faut rentrer à la rame, c'est 100 fois le temps, 200 fois le temps. Et quand on est dans une tempête, c'est la catastrophe assurée. Et comme ce sont des professionnels, ils disent à Jésus, on n'est pas trop décidé. Jésus les fait passer de l'abondance miraculeuse de la multiplication des pains à un problème. C'est qu'il leur demande quelque chose qui est difficile. C'est souvent après les grands moments avec Dieu, il faut redescendre. Après la transfiguration, il faut redescendre. Et après la multiplication des pains, il faut se remettre à l'eau. Et dans le mauvais sens. Il leur donne une mission. Vous allez aller là-bas, vers le nord. Et moi, je disperse la foule. On peut dire, mais tu aurais besoin de nous, Seigneur, pour disperser la foule. On aurait bien t'aider. On n'est pas pressé. Tous les marins de l'époque, ils savent qu'après tout, et tout le monde sait, dans tout temps, que le vent, ça va, ça vient. Et puis, si on attend quelques jours, il y aura le vent dans le bon sens. Pourquoi être si pressé? Pourquoi maintenant, Seigneur, tu nous demandes ça? Pourquoi tu nous fixes ce programme? Pour toi, tu vas rentrer à pied? Et nous, on doit ramener la barque, là, quelque chose. Bon, je suppose que s'ils ne l'ont pas dit, ils l'ont pensé. Et Jésus les force. Pourquoi Jésus nous force à faire quelque chose qu'ils ne veulent pas trop faire? Parce que Jésus, certainement, il a quelque chose à leur apprendre. Et je pense que dans les épreuves que Dieu permet dans notre vie, c'est qu'il a quelque chose à nous dire, quelque chose à nous apprendre, quelque chose pour nous faire grandir. Et vous savez, il y a quelque chose qui est très intéressant dans le Nouveau Testament, ce qu'on appelle les miracles en doublet. Il y a un certain nombre de miracles qui ont lieu 2 fois. Il y a eu 2 multiplications des pains et Jésus leur a donné un enseignement. Vous connaissez la Bible. Il y a eu 2 pêches miraculeuses, une au début du ministère, une à la fin. La première pêche miraculeuse, Jésus était dans la barque avec eux. La deuxième pêche miraculeuse, ils regardaient sur la côte. Ils étaient tout seuls, c'est après la résurrection. C'est 2 miracles qui encadrent le ministère de Jésus sur terre. Et il voulait leur apprendre à jeter le filet sur la parole seule de Jésus sans qu'il soit là. Et puis là, c'est le 2e miracle sur l'eau. Une première fois, vous connaissez aussi l'évangile, il a calmé les flots. Il était dans la barque. Mais cette fois-ci, vous savez, c'est comme ça. Le moniteur, d'abord, on est en double commande lorsqu'on apprend à conduire. Puis à un moment, on va vous lâcher tout seul. Eh bien, le Seigneur veut les lâcher seuls sur le lac, avec une parole, avec une mission et avec un problème. C'est qu'il va y avoir du vent. Ils le sentent venir et puis il se produit quelque chose. C'est que le problème, il va être plus dur, plus long que ce qu'ils craignaient. Ceci dit, si on compare les deux textes, de la tempête apaisée et de Jésus marchant sur les eaux, ce deuxième récit, il y a quand même moins de tempête. Vous connaissez le texte, 1 Corinthiens 10, 13. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Et le Seigneur nous appelle, il est en train de les entraîner à ramer dans la tempête. Et ramer dans des conditions difficiles. Parce qu'ils n'ont pas l'équipement, bien sûr, pour être dans de bonnes conditions pour affronter cette épreuve. Mais ils vont réussir, bien sûr, parce que Jésus a mesuré et que Jésus est là. Et on va aller sur l'image suivante. En 1986, on a retrouvé dans la vase, près de l'arrivée du Jourdain, dans le lac de Génézareth, dans le lac de Kinneret, une épave, conservée extraordinairement dans la vase, recouverte par les sédiments. Et figurez-vous qu'elle était datée au carbone 14 par les archéologues. C'est peut-être la barque de Jésus, peut-être, ou une autre. Une de ce temps-là, on est à 100 ans près, hein, plus 50, moins 50. Alors, vraiment, ce serait un grand hasard. Mais elle est très intéressante parce qu'elle a été évidemment mise en musée, on l'a restaurée, on a fait des tas de traitements pour conserver le bois. Alors c'est une barque qui nous donne exactement ce qu'était la barque du temps de Jésus, des pêcheurs, la barque de Simon-Pierre ou d'un de ses collègues. 8,20 m de longueur. 2,30 m de largeur, 1,30 m de profondeur, ça fait quand même un poids de plus d'une tonne. On peut être à 15, 16, jusqu'à 20 dessus en se serrant. Il y a quatre grandes rames. Il y a même une voile par beau temps. Ça a été reconstitué et ça donne ça. Il n'y a pas de gouvernail. On ne connaît pas encore le gouvernail à l'époque. Par contre, l'avant ressemble à l'arrière. Ça permet de partir dans les deux sens selon ce que l'on veut et la façon dont on rame. Alors, c'est difficile à diriger. C'est assez stable. Et c'est assez bien fait. La barque qu'on avait retrouvée dans la vase, je ne sais pas si on peut retourner en arrière, eh bien c'est une barque dont il manque tout des tas de parties. Parce qu'on s'est aperçu, en faisant l'analyse de la barque, qu'il y avait 17 pièces différentes, de bois différents, d'époques différentes. C'était une barque rafistolée. Pourquoi ? Parce que quand il y avait une tempête, les pêcheurs allaient sur la grève. Et puis là, c'était difficile de remonter la barque. Alors les vagues battaient et puis là, elles cassaient, elles partaient en morceaux. Alors on mettait les morceaux, tenons, chevilles, enfin un gros travail. Et puis il y avait un moment où cette pauvre barque, irréparable, trop vieille. Alors ils ont récupéré tout le bon bois qu'ils avaient rajouté pour le remettre en pièces sur d'autres barques qui avaient besoin d'être un petit peu réparées. Donc on revient sur notre barque. C'est avec cette barque-là qu'ils vont affronter la tempête. Mais affronter une tempête, cette fois-ci, dans des conditions différentes. On va prendre l'image qui représente le programme que Jésus leur a fixé. Remonter, donc, vers Bethsaïda. 10 km à la rame. Ils commencent l'après-midi, arrive la nuit, ils sont toujours quelque part dans le lac. Ils sont dans le lac, oui. Et puis, au milieu de la nuit, à 3 heures du matin, ils ne sont toujours pas arrivés. Parce qu'il y a un problème. Il y a un tel vent en face d'eux qu'ils n'arrivent pas à avancer. Ils avancent qu'à la rame. C'est des grandes lames, grandes rames qui sont très lourdes. Et ils sont épuisés. Ils n'ont pas la force de compenser la pression du vent. Ça ne vous arrive jamais, ça. Le Seigneur nous a fixé un programme. Dis-toi, voilà ce que je te propose. Voilà ce que je pense que tu dois faire. Tu as les moyens de le faire. Et fais-le, par exemple, maintenant. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a des épreuves. Il y a des contretemps. Il y a des déceptions. Il y Il y a des moments où il y a c'était des sommets spirituels dans nos vies. Puis là, il y a des creux qui sont longs et qui sont lents. On savait bien que ce serait dur. On s'en doutait, figurez-vous. Mais on ne pensait pas que ce serait si long. On ne pensait pas que ce serait si usant. On ne pensait presque pas que ce serait si fort. Et en plus, la nuit tombe. Alors, ce n'est pas sans doute une tempête de pluie, c'est une tempête sèche. Mais on est dans le noir. Du coup, on ne voit plus grand-chose. On voit des silhouettes. On distingue à peine, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de phare à l'époque. On est quand même dans une grande obscurité. Et alors, pour ceux qui connaissent un peu la mer, quand on perd les références d'horizon, on perd l'équilibre. Et vous savez, les petits inconvénients qui arrivent dans ces cas-là. Ils sont complètement épuisés, désorientés. Matthieu 14 dit que les disciples sont tourmentés par les vagues. Je prends une version. Et l'évangile de Marc dit qu'ils sont tourmentés à ramer. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois épuisés par la suite des événements qui les frappent, un après l'autre, c'est dur d'encaisser sans arrêt. Et puis ensuite, tourmentés parce que les muscles font mal. C'est l'image de l'usure de la vie chrétienne. Lorsqu'on a des années et des années de conversion, et tous ceux qui sont anciens avec le Seigneur le diront, c'est fantastique. Oui, mais quelquefois, ça use. Et quelquefois, il y a une lassitude. Quelquefois, il y a une routine qui se met dans nos vies. Et on perd la joie, et on perd l'enthousiasme. Et il ne reste plus que ces petits coups qui nous atteignent les uns après les autres. Il rame, mais la barque n'avance pas. Ça vous est jamais arrivé aussi de vous trouver dans la situation où on s'attend avec le Seigneur que ça avance, qu'on dépasse un cap, qu'on dépasse tel ou tel problème dans nos vies, qu'on prenne une victoire? Et puis, ça n'avance pas. Je vais être concret. Il y a sans doute plusieurs parmi nous qui sont dans une lutte contre une tendance de notre caractère, peut-être contre un péché, quelque chose qui essaye de nous fatiguer, de nous user, qui nous éloigne de Dieu. Et on dit, on va prendre la victoire et on va avancer. Puis c'est toujours pareil, ça n'avance pas. Comment je vais pouvoir être libre? Comment je vais pouvoir dépasser tel ou tel aspect de mon caractère? Comment je vais pouvoir enfin être efficace? Comment je vais pouvoir enfin être libéré de pensées noires? Enfin, chacun pourra mettre des choses concrètes derrière ce que je dis, mais vous voyez bien ce dont je veux parler. C'est quand dans notre vie chrétienne, on dit « Seigneur, pourquoi ça prend tant de temps? Pourquoi il y a encore des vagues? Pourquoi le vent est toujours contraire et puis je ne vois même pas la côte en face? Quand est-ce que ça s'arrêtera, Seigneur ?» L'usure. Efforts inutiles, on dit, puisque c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Si on regarde la carte, le vent, il vient par un petit peu en face d'eux, mais légèrement de biais. Pour tout marin, il y a une solution facile lorsqu'on avance dans une barque comme ça, c'est que d'abord, on se met soit face aux vagues, c'est-à-dire qu'ils vont plutôt vers le côté ouest du lac, soit il y a une autre solution, c'est la fuite. C'est la solution classique des marins qui se trouvent dans cette situation-là. Le bateau, justement, est prévu pour ça. On se met à aller directement à la côte. On se laisse pousser par le vent. Quand le vent est à l'arrière, on embarque beaucoup moins d'eau. Et puis, on se met en fuite ou à la cape. C'est différentes techniques maritimes. Résultat, ça ne dure pas longtemps. Alors le problème, c'est qu'on arrive sur une côte. Si on arrive sur des rochers, ce n'est pas la peine, c'est la mort. Mais il se trouve qu'en face, il n'y a pas de rochers quasiment. C'est des grèves plates. Il y a même un petit port qui se trouve juste à peu près au premier tiers en hauteur. C'est le port de Gézara ou Gadara. On va arrêter de lutter. Vous savez, cette tentation-là. Cette voix qui vient nous dire « Pourquoi tu es en train encore d'assister, mon pauvre chrétien? Pourquoi tu crois encore les promesses de la Bible? Tu vois bien que ça ne marche pas. Pourquoi tu es encore plein de vouloir, d'idées, de projets? Tu vois bien que ça ne marche pas pour toi, peut-être, pour tes frères, sans doute. Mais toi, arrête. Laisse tomber. Laisse-toi aller. » C'est la tentation, on l'a tous eu. Et vous savez que Jésus l'a eu. la tentation sur le monde, la tentation. Laisse, prends les richesses du monde, elles sont à toi. Jésus vous a jamais, pardon, Jésus a eu cette tentation, vous l'avez jamais eue, vous ? Bon, arrête. Hein. Mets-toi en fuite. Il y a même un protestant, alors qu'il n'est pas converti, pas prêt d'être converti, pourtant très célèbre, il s'appelle André Gide. Il a dit quelque chose d'affreux, il a dit la même chose que Satan. C'est quelqu'un qui était un grand pécheur, il était homosexuel, il avait tout, la totale. Il était génial, mais à part ça, il a dit la meilleure façon d'échapper à la tentation, c'est d'y succomber. Évidemment, la tentation, celle-là, elle va arrêter. Oui, mais il y a une deuxième pire, une troisième. Et regardez, pourquoi, je ne pense pas que c'est un hasard. Si arrêter de lutter, c'est se laisser déporter vers Gazara. Bon, on va arriver sur la côte, apparemment, la barque va être un peu cassée, on va boire de l'eau en essayant de faire du 4 pattes sur la plage pour échapper aux vagues. On espère qu'il n'y aura pas de mort, ça va à peu près bien se passer comme atterrissage. Mais je trouve c'est, on revient sur l'image d'avant. Mais Gazara, ça vous dit rien ? Gadara, le village des Gadaréniens. Mais c'est plein de démons là-bas. Si on compte celui qui est en train de se balader dans le cimetière, une légion, et puis les troupeaux de pourceaux, si vous laissez tomber le combat que le Seigneur a mis devant nous, surtout le combat pour rester dans la voie de Dieu, eh bien l'ennemi, il a sa carte de prêtre qui vous amène au pays des démons. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Vous avez remarqué aussi ? C'est celui qui se laisse aller au péché, celui qui se laisse aller à ses instincts, celui qui ne lutte pas, celui qui ne prend pas le combat du Seigneur. Eh bien, ça peut être très grave pour lui à l'arrivée. Alors, ils ne vont pas faire ça. Ils tiennent bon. Ils résistent à la tentation de rebrousser chemin. Ils se mettent face aux lames pour éviter d'embarquer le moins d'eau possible. Et puis, ils s'organisent. Parce qu'une tentation dont la Bible ne parle pas, mais j'imagine. Hein, ils sont à 12, 15, je ne sais pas, sur le bateau. Alors je suppose qu'il y a des bons rameurs, ben, les marins. Il y a d'autres qui sont des mauvais rameurs. Mettons qu'on en mette 2 ou 3 à écoper avec un seau là, pour vider la barque. Puis les autres, ils font rien. Vous savez comment c'est comme ça quand ça va mal et que les vents sont contraires ? Normalement, qu'est-ce qui se passe ? L'équipe explose. Se désorganise. C'est les bleus au mondial d'Afrique du Sud. Quelle équipe pour Jésus ? Quelle équipe ? Là, apparemment, il n'y a pas eu de problème. Peut-être certains. Même Judas, on n'entend pas parler. Ils sont restés unis. Sans doute Pierre a eu un rôle essentiel. Parce qu'on le va voir après, essayer de marcher sur les eaux. Il est là. Mais ensemble, ils vont lutter. Ils ne vont pas se critiquer. Ils ne vont pas dire, écoute, pourquoi toi tout le temps, tu fais rien et moi, c'est moi qui me fatigue. Vous savez, c'est toutes les choses qu'on peut dire. Et puis on peut aussi, Seigneur, s'il était là, il est resté tranquille, lui, c'est bien beau, il prie. C'est bien beau prier comme ça, au calme. Hein. Vous savez, on peut avoir des pensées mauvaises dans ces cas-là. Et le diable est celui qui nous donne ces pensées mauvaises. Mais eux, ils vont tenir bon. Et puis, à la fin, c'est ma dernière partie, Jésus vient. On retrouve dans notre texte Jésus qui regarde. Il est là sur la montagne. Il n'a jamais perdu de vue ses disciples. Il a toujours été là. Et quand il a vu, il va intervenir. Et quand la tempête est formée, il est déjà en train de marcher vers eux. Jésus aurait pu se laisser porter par l'esprit pour arriver directement à Bethsaïda ou à Génézareth. Prends la peine de marcher pour aller aider, pour rejoindre ses enfants, ses disciples. Mais il le fait au moment où il a décidé, à la 4e heure, donc 3-4 heures du matin. Et de façon surnaturelle, j'insiste pas, marcher sur les eaux, c'est un miracle qui va impressionner les foules et qui va frapper de stupeur parce que c'est tout ce qui est contraire à la nature. C'est plus qu'une guérison. C'est un grand miracle. Alors que les eaux sont en furie, il marche. Jésus se plaît à agir au cœur de notre épreuve et de notre lutte et au cœur de l'usure même quelquefois de notre marche avec lui. Vous connaissez Ésaïe, chapitre 59, verset 19. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Il a attendu. Il a attendu, mais au moment où il fallait, eh bien, Jésus a agi. Et là, on est un peu déçu quand même. Vous n'avez pas été déçu en lisant le texte? Voilà des hommes qui connaissent Dieu, qui connaissent Jésus, qui le suivent depuis des mois, peut-être déjà des années. Mais ils font deux contresens basiques. Ils poussèrent des cris, ils étaient troublés, vous avez vu? Ils l'ont pris pour un fantôme. Vous avez vu dans le Nouveau Testament parler de fantôme, vous? Non. C'est dans la tête des disciples. Les fantômes, la Bible parle de démons, oui, mais de fantômes, non. Au moment même où ils sont dans l'épreuve, dans le noir, enfin pas complètement le noir, mais dans la pénombre, et pourtant c'est Jésus qui vient, il y a peut-être toutes sortes de choses qui remontent là. On appelle ça en sociologie l'infra-religieux. C'est des vieux retours du paganisme, des choses anciennes, des choses démoniaques qui sont là, qui remontent. Et c'est ça qui vient à leur idée. C'est quand même un peu désespérant. C'est tellement inscrit dans notre culture, dans notre passé, dans les traditions, que ça leur fait peur. Alors que c'est Jésus qui vient. Moi, je connais. Je peux citer des noms, je ne vous citerai pas, bien sûr. Des chrétiens, après des années de vie spirituelle, qui sont encore tourmentés par ces choses-là. Des vieilles histoires de sorcellerie, de démons, d'esprits frappeurs et tout ce que vous voulez. Alors, je ne dis pas que ce ne soit pas un domaine effectivement, où il y a un contexte démoniaque derrière. Mais c'est ça qui vient essentiellement à leur idée et qui les embête dans leur vie spirituelle, alors que Jésus est le délivreur. Alors que c'est une délivrance complète, alors que tout ça est du passé. Alors ça n'a rien à voir, là, avec la vraie réalité. Peut-être que s'il y a ici, ce matin, quelqu'un qui est embêté avec ça, qui se pose des questions, ouais, mais à des ancêtres. Et qui se pose des questions, ah ouais, mais j'ai eu des malédictions autrefois par un tel. Et qui traîne ces images-là aussi dans sa vie. Ça fait partie de la tempête et des vagues. Eh bien, la Bible a un mot pour lui ce matin. C'est ce que dit Jésus. On a lu ensemble. C'est moi. N'ayez pas peur. Le Seigneur est celui qui délivre. Le Seigneur est celui qui nous met dans la vraie perspective, quelle est la perspective de libération totale dans tous les domaines de la vie. Jésus parla avec eux. Ce n'est pas un fantôme, c'est le Dieu vivant. Et puis, il y a une deuxième erreur qu'ils font, deuxième contresens. Ils semblent les dépasser. On va regarder la carte, là. Moi, j'explique ça, hein. C'est mon opinion, peut-être pas forcément d'accord. Bon, un petit peu, question de la maritime. Le vent vient, on l'a vu, d'après les chartes graphiques, essentiellement du nord-ouest. Donc, ils sont mis face à la lame. Et je rappelle qu'il n'y a pas de gouvernail. Ils sont en ramé de dos, il faut qu'ils se dirigent sans phare, dans la nuit, dans une semi-nuit, comme ça, à quatre, sachant qu'il faut synchroniser, ce n'est pas évident. Donc, ils ont fait quelque chose de simple. On ne va pas retourner en arrière, on va aller plutôt en avant. Il faut en faire un peu plus. Alors, tout ça, c'est très bien. Hein. Et du coup, ils se sont mis essentiellement face aux lames. Ce qui fait qu'ils n'arrivent pas tout à fait à Bethsaïda. Ils sont un peu vers l'ouest. C'est la trajectoire jaune qu'ils ont. Et j'ai l'impression, j'engage que moi, quand Jésus vient les suivre, eh bien, ils voient que ce n'est pas tout à fait, mais ils ont tellement voulu bien faire, et c'est normal. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Il n'y a rien à leur reprocher. Ils sont parfaits à ce niveau-là. Mais il voit Jésus qui n'est pas tout à fait la même trajectoire. Et ça y est, on a encore raté le plan de Dieu. On voulait bien faire, Seigneur. On a fait ce qu'on a pu. Mais tu viens, mais Seigneur, regarde, tu es en train de nous rater. C'est terrible, ça. Le naufragé qui voit passer le bateau et puis la fumée qui s'éloigne. C'est effrayant. Ils sont dans la tempête. Il y a Jésus qui vient et Jésus qui part. C'est jamais arrivé, ça. Jamais arrivé non plus, ça. Il dit, voilà le secours de l'Éternel. Tiens, il n'est pas passé pas loin, mais ce n'était pas pour moi. Et puis surtout, cette interrogation-là. Seigneur, je voulais bien d'être fidèle. Regarde, j'ai suivi tes voies. Enfin, oui, alors encore pire quand on dit, moi, je n'ai pas été parfait. Mais c'est vrai. Est-ce que je n'aurais pas raté? Est-ce que ta trajectoire de promesse que je vois se réaliser, est-ce que c'est pour moi? Je connais aussi des chrétiens qui sont tourmentés. Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans qu'ils suivent le Seigneur. Et honnêtement, c'est des bons chrétiens. Et puis ils ont toujours à se poser des questions. Est-ce que je suis complètement dans le plan de Dieu? Est-ce que cette promesse-là est encore vraie pour moi? Est-ce que je n'ai pas raté quelque part un moment? Pas du tout. Au contraire, c'est parce qu'il voulait bien faire que la trajectoire est un petit peu différente. Et Jésus, bien entendu, il va vers eux. Il l'appelle. Il met au point. Il l'appelle parce qu'il faut appeler Jésus. Jésus va faire deux choses. Il va monter dans la barque. Il va dire, courage, c'est moi. Et puis les flots vont s'apaiser. Le vent va cesser. Et même nous dit l'autre texte de l'évangile de Jean, qui est en parallèle, ils vont pratiquement arriver tout de suite sur la côte. Et regardez ce qui se passe. Ils n'arrivent pas à Bethsaïda, ils arrivent à Génézaret. Est-ce que vous croyez que le plan de Dieu, c'était Bethsaïda? Je ne crois pas. Dans le plan que Jésus avait tracé, il leur a dit aller vers Bethsaïda, mais ils savaient très bien qu'il allait aller à Génézaret parce qu'ils allaient collaborer avec lui. Ils ont parfaitement été dans son plan parce qu'il fallait faire face à la lame, mais ça, Jésus avait tout intégré dans, j'allais dire, le logiciel divin, la dérive, compensation automatique d'objectif. La preuve qu'ils sont au bon endroit, c'est quand ils arrivent, il y a le réveil. Jésus avait rendez-vous avec eux à Génézaret. Jésus avait rendez-vous avec tous les malades de Génézaret. Jésus avait rendez-vous avec tous les miracles qui allaient avoir lieu à Génézaret. Tout ça parce qu'ils ont ramé. Ils croyaient qu'ils ramaient pour rien. Ils croyaient qu'ils perdaient leur temps. Ils croyaient que c'était obéir comme ça parce qu'il fallait et puis qu'on ne comprend pas trop. Mais tout ça, c'était un plan. C'était un plan qui défiait les démons de Gadara. C'était un plan qui allait instruire ses disciples dans la voie de l'obéissance, dans la voie de l'unité. Une équipe qui allait rester unie, y compris dans les temps terribles, qui allaient être ceux de la croix bientôt. Jésus savait. Dieu avait tout prévu. Et Dieu avait un plan d'amour et de bénédiction. Alors, je ne sais pas comment on peut conclure. Va-t-on le reprocher à quelque chose? C'est vrai qu'ils ont un peu manqué de foi. Mais après tout, c'est notre cas à tous. Ils ont vu Dieu, ils ont été étonnés. Ils ont vu Dieu encore plus grand que ce qu'ils imaginaient. Et je crois que c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu est celui qui est grand. Dieu est celui qui nous attend. Dieu est celui qui prévoit quelquefois le surplace dans nos vies malgré tous nos efforts. Mais il le fait parce qu'il veut nous tirer d'affaire. Il veut nous aider. Il veut nous utiliser. Je ne vais pas faire d'appel. Je ne sais pas si c'est un chant ou si tu prends le relais. Je parle à Yvan. Je vais laisser le...
On va fermer les yeux ensemble. Dieu ne te demande pas de vivre le miracle chaque jour parce que ce n'est pas son plan. Il y a un miracle d'un côté de la rive, il y a un miracle de l'autre côté qui t'attend aussi. C'est formidable. Mais Dieu t'aime autant quand tu es en train de ramer, que tu es dans une période d'usure de ta vie. Elle est prévue par lui, elle est organisée par lui. Il est autant là que lorsque tu avais des miracles, des multiplications de pain il y a quelques années. Et il sera autant avec toi dans quelques temps aussi, parce que tu en as besoin, ou de l'autre côté, tu verras encore l'abondance. Mais persévérer aujourd'hui, c'est ce que Dieu te demande.
Écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire,
ensemble. Fort sur mon cœur qu'il y a des personnes ici qui ont un problème lorsqu'ils regardent leur vie en disant mais ma vie n'est pas bénie par Dieu, ma vie n'est pas abondante et c'est pas normal, et tu as une vision très négative de ta vie, tu regardes le passé, tu regardes aujourd'hui, tu dis j'avance pas et certainement je ne fais pas les choses correctement, je ne suis pas dans le plan de Dieu. tu confonds la bénédiction de Dieu et l'amour de Dieu. Et Dieu n'est pas quelqu'un qui va toujours te donner le succès. Parce que son succès n'est pas ce que tu vois. Sinon, la vie de Jésus est un échec. Parce que Jésus est mort à la croix, alors il a échoué. Voilà ce que tu penses alors de Jésus. La vie de l'apôtre Paul est un échec alors, parce qu'il est décédé dans des circonstances terribles de dénuement. Non, non. Comment Dieu voit une vie comme ça, c'est pas du tout pareil, parce que Dieu est près de ceux qui sont en train de ramer dans le noir, Dieu est près de ceux qui sont en train de tenir quand c'est pas facile. Alors change ta vision sur ta vie ce matin. Change ta vision. Commence à dire, Seigneur, merci pour les forces nouvelles dans la nuit. Merci pour ma prière le matin pour mes enfants, même si c'est dur. Merci, Seigneur, pour ce travail que tu m'as donné. Je ne l'ai pas choisi, Seigneur, mais je veux le garder, je veux tenir accroché. Merci, Seigneur, pour cette église, même si je n'ai pas encore beaucoup d'amis ici. Seigneur, je te prie de m'aider à m'enraciner. C'est ça le plan de Dieu pour ta vie aussi. Arrête de vouloir que ce qui brille. Dieu veut ce qui est profond dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus. Oh mon Dieu. Commence peut-être à ta place, dans le silence de ton cœur, à parler à Dieu, à dire Seigneur, je refuse d'écouter ces voix qui me disent qu'il y a des fantômes dans ma vie. Je refuse d'écouter ces voix qui me disent que j'arriverai jamais. Alléluia. Oh. Dieu ne cherche pas seulement un peuple de champions, de héros qui ont des résultats visibles. Il cherche un peuple de serviteurs, de servantes qui sont prêts à travailler avec lui dans n'importe quelle circonstance. Des personnes aussi solides qu'il peut compter sur elles. Qui sont prêts à prier même dans le lieu secret quand tout est noir et de se dire « Seigneur, sur mes genoux, c'est là que je gagne le plus grand des combats ».
Dans ce lieu secret, tu entends ma prière. Là où celui qui cherche trouve, celui qui demande reçoit. Ma foi s'appuie sur ta parole. Oh oui, tes promesses sont certaines. Même dans ce lieu secret, tu entends ma prière. Car où celui qui cherche trouve, celui qui demande reçoit. Ma foi s'appuie sur ta parole. Car tes promesses sont certaines. Je prie en ton nom, tu es ma force, tu es ma joie. Et mes cris, tu les entends, en ta puissance, la bienveillance, je crois. Je prie en ton nom, tu es ma force, tu es ma joie. Et mes cris, tu les entends, en ta puissance, ta bienveillance. Même dans ce lieu secret, tu entends ma prière. Là où celui qui cherche trouve, celui qui demande reçoit.
Ma foi s'appuie sur ta parole. Et tes promesses sont certaines.
Je prie en ton nom. Tu es ma force, tu es ma joie. Et mes cris, tu les entends. En ta puissance, ta bienveillance, je crois.
Je
prie en ton nom. Tu es ma force, tu es ma joie. Et mes cris, tu les entends. En ta puissance, ta bienveillance, je crois.
Tu agis bien au-delà de mes demandes. Tu connais les plus secrètes de mes pensées. Tu agis bien au-delà de mes demandes. Tu connais les plus secrets de mes pensées.
Tu agis bien au-delà de mes demandes. Tu connais les plus secrets de mes pensées. Tu agis bien au-delà de mes demandes. Tu connais les plus secrets de mes pensées.
Tu agis
bien au-delà de mes demandes.
Tu connais
les plus secrets de mes pensées.
Tu agis
bien au-delà de mes. Tu connais les plus secrets de mes pensées.
Je prie
en ton nom. Tu es ma force, tu es ma joie. Et mes cris, tu les entends. En ta puissance, ta bienveillance, je crois.
Je
prie en ton nom. Tu es ma force, tu es ma joie. Et mes cris, tu les entends, en ta puissance, ta bienveillance, je crois.